Garde le rythme, mon remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balanceman, cadenceman, trace la classe, c'est le top man.
Et allez, allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
Ouh. Oh. Là. Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mets un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il n'est pas fini, hein.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce match 11 de Gaulle Volant. Vous écoutez l'émission Sport et Société de Timbre FM sur le 106.6. Et non, vous ne rêvez pas, chers auditeurs. Cette voix, vous la connaissez. Oui, oui, c'est bien moi. Moi qui ai eu l'honneur d'interviewer Giroud lors du match 7. Moi qui suis en procès avec Astrid Veillon depuis le match 9. Oh. Alors vous allez me demander, pourquoi moi aujourd'hui au micro de Gaulle Volant? Pourquoi êtes-vous privé de la voix suave et voluptueuse de notre coach bien-aimé Jérôme? Sera-t-il accaparé par un obscur tournoi de tennis au fin fond des Côtes d'Armor? Ou par un match de foot de son club d'amateurs du dimanche? Que nenni, la raison est bien plus prosaïque que ça.
Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'enfuis, j'oublie, je n'en fuis.
C'est moi, ouais.
Je lâche le sel.
Oh oui, c'est toi.
Quelle voix.
La vache.
Il était ouais. Quelle heure, là?
Il était tard.
Ouais, ouais, notre coach s'est tout simplement pris une bonne grosse cuite de derrière les fagots hier soir pendant un karaoké de l'entente sportive de Saint-Clet. Et ne s'est pas levé ce matin. C'est donc moi. Moi, après un chifoumi auquel j'ai lamentablement échoué, qui me retrouve à devoir assurer au pied levé la présentation de ce match 11 de Gaulle Volant. Alors je dois avouer, un peu vexé de me retrouver ainsi devant le fait accompli, j'ai décidé de me venger en changeant le thème de l'émission.
Quoi ?
Eh ouais. Désolé de vous décevoir, mais le thème d'aujourd'hui ne sera pas, comme prévu initialement, sport et maçonnerie.
Oh, non.
Vous n'aurez donc pas droit à la chronique d'Alban sur les influences de la philosophie grecque dans la construction des stades au XXe siècle, ni à celle de Benjamin sur les similitudes physiologiques et anatomiques entre les maçons et les sportifs de haut niveau.
Tout à fait, j'avais bossé pourtant.
Dommage.
Ouais, je sais, c'est pas cool. Mais pour être en adéquation avec la gueule de bois de Jérôme, Gaulle Volant va aujourd'hui s'attaquer à un sujet controversé dans le sport, l'alcool.
Qu'est-ce que tu viens de dire?
C'est pas cool.
Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool?
Oui.
C'est pas cool, c'est ça que tu dis?
Bah...
L'alcool, c'est pas cool. C'est pas cool.
Oui, j'ai dit que
c'est
c'était pas cool.
L'alcool, c'est pas cool.
Non, c'est,
pas cool. C'est pas cool.
Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool?
Encore Jérôme, là, non?
Ça devrait s'appeler l'alcool.
Bon, en même temps, qui de plus approprié que moi pour présenter ce Gaulle Volant sport et alcool?
Oui,
quand moi qui n'ai pas fait de sport depuis les cours d'EPS en terminale, et moi qui n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis...
Une vingtaine de minutes.
Midi, ouais. Car oui, dans nos sociétés occidentales, le sport et l'alcool sont si fortement associés qu'on conçoit mal l'un sans l'autre. En cyclisme, en Formule 1, au football, rares sont les podiums qui ne sont pas célébrés sous une pluie de champagne. Les équipes sportives, toutes disciplines confondues, sont pour beaucoup sponsorisées par des boissons alcoolisées. La consommation d'alcool associée aux activités sportives a également son propre vocabulaire. On parle bien de 19e trou au golf, de petits remontants en référence aux remonts de pente des stations de ski, ou encore de la fameuse 3e mi-temps au rugby et au foot, celle qu'a si merveilleusement bien chantée Thierry Roland.
Allez les merdes !
Alors cette histoire d'amour entre le sport et l'alcool, on peut l'analyser sous deux angles. Du côté des supporters déjà, pour bon nombre d'entre eux, l'alcool est indissociable de leur supporterisme. Et que ce soit au stade ou dans leur canapé, beaucoup ne conçoivent pas pouvoir se passer de boire un coup ou 12 pour vivre dans les meilleures conditions le match de leur équipe favorite.
Téléplace, je dis bonjour, téléplace, pour le moule, dans les gradins.
Bah, bah ouais, dans les gradins, alors.
Et dites-vous, vous rentrez pas avec les canettes. Alors... Je dis nous, on rentre avec les canettes.
Alors,
je dis vous bah, rentrez pas avec... J'ai dit, va te faire foutre, connard.
Connard, alors. Et c'est comme ça, bah nous, on a acheté deux caddies, plein de canettes. On a regardé à la maison.
Chacun son caddie, lui son caddie, moi mon caddie.
Bah, moi, c'est...
On est rentré à la maison,
voilà.
On a bu les canettes.
Et puis on a regardé le match à la télé.
On l'a pas regardé à la télé, t'as cassé la télé avec une canette, connard.
Sport et alcool, on peut aussi l'appréhender du point de vue des sportifs. Dans la littérature scientifique, on rapporte régulièrement que les sportifs consomment beaucoup d'alcool et même qu'ils sont plus nombreux que les non-sportifs à en consommer de manière excessive. Qui n'a pas en tête ces images anciennes de coureurs du Tour de France dévalisant les épiceries de village dans ce qu'on appelait la chasse à la canette ?
Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans le bistrot, ils bousculent tout le monde, ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils... prennent n'importe quoi, du vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et en général, c'est ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis ils s'en vont, bien souvent sans payer d'ailleurs, faut bien dire.
Même de l'eau.
Même de l'eau, ouais. Alors si on connaît bien l'impact de l'alcool sur le corps humain lambda, je parle à des connaisseurs, hein, n'est-ce pas ? Qu'en est-il des conséquences que peut avoir la consommation d'alcool sur ceux qui pratiquent une activité sportive ? Quels sont les effets de l'alcool sur la performance sportive ou sur la récupération après l'effort ? Sport et alcool font-ils bon ménage ? Sport et alcool sont-ils forcément indissociables ? On va essayer de répondre humblement à ces questions dans ce 11e match de Gaulle Volant. Et pour cela, j'ai convoqué une belle équipe d'alcoolos sportifs du dimanche.
Qui c'est qui est là ?
Enfin, c'est le rendez-vous des glandus, là, ou quoi ?
Jolie brochette.
Il possède une belle robe jaune et dorée, avec une fine mousse blanche. Au nez, il dégage des arômes de houblon et de foin. En bouche, on y retrouve des saveurs d'herbe, de pêche et d'agrumes. Un caractère bien houblonné et amer, comme une bonne IPA de Bobo René. Salut Benjamin.
Ah, c'est moi.
On se demandait
si ça va tomber.
Ça va tomber, oui. Alors, c'est vrai. Salut Mathieu.
Salut. De quoi vas-tu nous abreuver ?
Eh ben, moi, je vais vous faire une chronique un peu à l'image, tu sais, de la petite Heineken fraîche que tu peux boire en terrasse l'été, légère, douce et agréable.
Oh, ça me fait rêver. Ouais.
La petite Heineken ?
Oui.
Ah oui.
La petite Heineken, Jérôme. Okay.
Long en bouche, mais au caractère un peu âpre et rude, comme un vin rouge un peu jeune, riche en tanins, mais ayant encore besoin de s'arrondir, c'est le Benjamin de l'équipe et c'est sa première parmi nous. Bienvenue Maël, avec quoi allons-nous boire tes paroles ?
Bonjour à tous, moi je vais parler des relations, des choses qui peuvent, des parallèles qui peuvent exister entre le sport et l'alcool, la pratique sportive et la pratique alcoolique.
Tu vas parler de toi un petit peu ?
Ouais, c'est ça, ça te correspond
bien. J'ai
mis
un petit peu de moi dans ce
résumé.
Un nez marqué, une bouche élégante et raffinée.
Ah oui.
Oh non.
Gras, puissant, bien qu'un peu marqué par le fût.
Gras ?
Tel un vin jaune d'anthologie, plein et élégant à la fois. Et quelle longueur ! Salut Jérôme.
C'est dégueulasse le vin jaune d'ailleurs. Salut.
Avec quoi vas-tu nous saouler aujourd'hui ?
Moi je vais vous parler un peu de sportif alcoolique, mais pas que. Je vais aussi parler de tabac. Il y aura 2-3 punchlines assez sympas. Voilà.
Parfait. Enfin, il nous offre des notes fumées exceptionnelles et singulières, reconnaissables entre mille. Son goût marqué est dû à la combustion de la tourbe qui permet au malt de s'imprégner de saveurs de fumée et de notes pétrolées et terreuses très typiques. Tel un bon whisky tourbé, il ne laisse pas indifférent, mais il ne peut se déguster à n'importe quel moment de la journée. Et c'est pourquoi on le gardera pour la fin et qu'il n'est même pas en plateau aujourd'hui. C'est Julien qui animera à distance notre troisième mi-temps. Bon, et ben voilà, j'ai l'impression qu'on a une bien fine équipe pour aborder ce thème casse-gueule. On va pouvoir démarrer. Et c'est une tradition dans Gaulle Volant, notre bizutage pour les petits nouveaux. C'est donc à toi l'honneur de démarrer, Maël.
Il y a quelques semaines, un camarade qui lui a bien choisi son camp entre le sport et l'alcool me propose d'intégrer une jolie bande. Et pas n'importe laquelle, une bande FM pour être précis. Petit clin d'œil à une autre émission. C'est un vrai FM, même rookie, je connais la grille, j'ai passé. Et pour ce faire, tel un champ de bizutage en équipe de France, je devais rédiger une chronique. Rédiger une chronique ? Je reste quoi ? Une chronique ? Soit, quel est le thème ? Le thème de l'émission, me dit-on, sport et alcool. Sport et alcool, dis-je. Sport et alcool, confirme-t-il. Après réflexion donc, j'accepte et me lance. Bon, je vais commencer par le fameux...
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Comme ça, on est tranquille. Mais attention, l'abus de sport peut aussi l'être. Cet abus porte même un nom, la bigorexie. 21 points au Scrabble. C'est pour toi, Mathieu.
En plus, je suis bien placé.
L'addiction au sport, une addiction qui touche 5% de la population adulte. J'en veux pour exemple notre Bichente National touché par cette maladie.
Je vais me taper 5 heures de vélo à transpirer comme un malade, à souffrir sur des cols, mais parce que j'aime ça.
Eh oui, oh, certains aiment ça. Au-delà de 10 heures de pratique sportive par semaine, les adultes risquent de devenir accros. Rassurez-vous, chers auditeurs, nous en sommes tous loin autour de la table, donc peu de risques de tomber dans cette addiction-ci. En effet, la pratique sportive libère des hormones dans le cerveau qui amènent au bien-être et à la plénitude. Le problème, c'est qu'il faut toujours augmenter les doses pour atteindre le même degré de plaisir. Attends. On parle toujours du sport, là, pas de l'alcool ? Car là, franchement, on peut confondre les deux. Ce qui est étrange, c'est que ces addicts aux activités sportives sont trois fois plus nombreux à être aussi addicts à l'alcool que ceux qui, comme vous et moi, nous adonnons au sport, mais avec modération. Conclusion, 20 bornes de vélo, ça va, un Ironman, bonjour les dégâts. Autre relation entre le sport et l'alcool, c'est la convivialité. On se retrouve entre potes autour d'une partie de volley sur la plage, où on se retrouve autour d'une table avec les copains, on rigole, ça chambre, ça parle un peu fort, ça s'énerve pour un ballon à remettre, de volley ou de rouge, suivant le contexte. On se donne rendez-vous sur un court de tennis pour se passer la balle ou à la maison pour se passer la bouteille. On s'organise une session surf comme on organiserait un apéro en terrasse. On y finit soit par rincer sa combi, rincer son pote ou tout simplement se rincer l'œil. On s'échafaude d'une sortie vélo durant laquelle on suce la roue de celui qui ou celle qui est devant, ou on s'échafaude un verre en fin de journée où on ne suce pas que des glaçons. Et il existe aussi des fameux duos indissociables associant l'un et l'autre de ces deux vices, par exemple la pétanque et le pastis, ou encore le ski et le génépi qui permet à tout le monde de se ravigorer.
Et voilà.
Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille?
Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle.
Et puis en général, après, que ce soit une activité sportive ou un apéro entre amis, on finit rincé, crevé, on n'en peut plus, on a tout donné. On peut même en être au point de vomir. Si, j'en ai déjà vu. On a des crampes au guibol ou à l'estomac, c'est selon. On s'endort bien et on se dit qu'on ne pourra pas refaire la même chose le lendemain. Ce qui est parfois contredit quelques heures après pour ceux et celles qui ont le plus d'entraînement.
C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier.
Eh hey oh, eh hey oh, qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau? C'est la nuit fatidique, allez, on va se taper l'apéro. Eh hey oh, eh hey oh, allez, mal-mêlez-vous ses fesses. T'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses.
Ben désolé pour ce soir.
Mais de l'une ou de l'autre de ces activités, on garde en général d'excellents souvenirs. Bref, voici quelques points communs entre ces deux activités chères à mon cœur qui rythment la vie de beaucoup de gens, avec plus ou moins d'intensité et de régularité, à des niveaux plus ou moins professionnels et avec plus ou moins de sérieux suivant la catégorie dans laquelle on évolue. Et je terminerai cette chronique par une citation d'Aimé Jacquet. Donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Et j'ajouterai, pour ma part, elles sont l'alcool aussi.
Ah, j'attendais une imitation de Jacques Lépreuve.
Peut-être plus tard.
C'est ton rôle, ça, Jérôme.
Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça.
Eh ben, merci, Maël, pour ta chronique à travers laquelle on te reconnaît bien.
C'était linguistique.
Oui.
C'était, ouais.
Tout à fait.
J'ai tâché.
Ah ouais, t'as bossé, hein, putain.
Parce que oui, faut le préciser quand même aux auditeurs, on est partis ensemble en vacances avec Maël et je peux vous l'assurer, l'alcool et le sport sont bien deux addictions pour lui. Ouais, parce qu'il y a quand même des idées reçues comme quoi la bière permettrait d'aider à la récupération après le sport.
Je m'appelle Dédé.
Et toi?
Et je m'appelle Marcel.
Enchaîne.
Oh, et je suis content de vous recevoir dans mon émission qui s'appelle Gym à la maison, Gym Passion.
Passion.
Une émission pour vous muscler le cul. Alors, on commence tout de suite. Pas un premier exercice qui s'appelle le lever jeté du bras.
En effet, je vais vous montrer, tes spectateurs, comment tu fais. Go. Tu prends un poids comme ça. Tu fais comme ça, go. Ah ah. Et voilà, c'est bon, t'es musclé du bras. Mais surtout, t'es crevé. Alors il faut que tu récupères. Et pour récupérer, quoi d'autre qu'une bonne bière?
Tout est dit.
Voilà, tiens les nez.
Alors oui, effectivement, la bière contient du maltose qui permet de régénérer les stocks de glycogène après l'effort. Elle contient aussi des vitamines B6 et B12, un peu de magnésium et de potassium et quelques acides aminés.
Moi, je le savais, ça.
Ah, oui. Bah oui. Mais bon, faut être honnête, l'organisme peut aller chercher tout ça ailleurs.
Ah bon ?
Mais alors vous, messieurs, qui êtes aussi sportifs qu'alcooliques, si vous deviez vous passer d'une de ces deux addictions, ce serait laquelle ?
Bah, j'ai quand même l'impression qu'il y en a une qui est plus saine que l'autre, quoi.
Bah oui, faut voir les choses à court terme, à long terme.
Précise, s'il te plaît.
L'alcool, il y a des fruits dedans, dans certains.
C'est ça. Donc oui. Tu te passerais l'alcool.
Alors qu'il y a de la médecine, non, il y a la médecine du sport. Il y a la médecine du sport, donc ça ne doit pas être que si bon que ça pour la santé.
On peut se péter, hein.
Il n'y a pas de médecine de l'alcool.
Mais c'est une vraie question, hein. Si vous aviez un choix à faire, vraiment.
Non, mais justement, Maëlle en a parlé de ce truc de que les sportifs, je crois qu'il y a un tiers de. Enfin, je ne sais plus quelle est la stat exacte, mais que parmi les sportifs, il y a plus de chances de consommer de l'alcool en plus grande dose. Je crois que je comprends un peu le parallèle par ma pratique. Quelque chose un peu quand tu fais du sport, tu es shooté après à je ne sais plus quelles hormones et quel truc.
Dopamine,
ouais, c'est ouais. Ça. Et que bah, peut-être tu es en recherche après de ce genre de choses que tu vas chercher après en buvant des coups plus que nécessaire.
Ouais. Je crois que Benjamin, tu reparlais un peu dans ta chronique tout à l'heure de ça aussi.
De
ce lien. Pourquoi boire après
Ah oui, après un petit peu, il y aura un petit peu de ça. Il y aura un petit peu de ça. Mais moi, je reviens sur ta question. Ce que je disais, en fait, il faut réfléchir à la santé, à court terme ou à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, je pourrais me passer du sport, je pense. Parce que boire un verre, bah, c'est agréable tout de suite. Alors le sport aussi, hein. Mais je pense qu'à long terme, c'est quand même mieux de laisser tomber l'alcool, hein, malheureusement.
Pareil.
Là, la conversation, c'est peut-être pas de savoir ce qui serait le mieux, parce qu'on va quand même être assez d'accord. C'est qu'est-ce qui serait peut-être le plus compliqué à arrêter. Comme disait Maëlle, il y a aussi un truc de sociabilité que moi je trouve dans les deux. Par exemple. Boire des coups au bistrot ou aller au sport, c'est deux moyens de rentrer en communication avec des gens. Moi, j'ai jamais pratiqué le sport. Enfin, j'ai très peu fait de footing, par exemple. Et j'ai peu pratiqué ce sport où j'arrive au tennis, je fais mon match, je pars sans avoir causé. Enfin, le truc, c'est aussi de causer avec les gens, quoi.
Que ce soit dans le sport ou dans l'alcool, il y a quand même un grand partage qui se fait entre les gens. On se retrouve pour passer un moment ensemble, après, autour d'un verre ou d'un terrain.
Mais après, ça dépend peut-être du sport aussi. Et aussi de la façon dont on boit.
Oui, il y a certains sports qui s'y prêtent peut-être un peu plus. Ouais, effectivement, on parlait de troisième mi-temps tout à l'heure. Le foot, par exemple, le rugby, tout ça, c'est sûr que il y a une pratique de fêter les après-matchs qu'il n'y a pas dans la course à pied, par exemple.
Il y a des sports, justement, où la troisième mi-temps, c'est souvent les sports de ballon, justement, avec le basket, le hand, etc., où il y a une troisième mi-temps. Mais c'est vrai que dans la gymnastique, j'ai lu un petit article là-dessus, où la gymnastique ou l'athlétisme, il y a très peu ce verre après les compétitions sportives ou après les
rencontres. Ça fait moins partie de la culture qui encadre... Parce que, notamment, moi, j'ai pratiqué le foot, il y avait énormément ce truc-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un enterrement de vie de garçon et il y avait un rugbyman qui était dans le lot. Et moi, je suis arrivé avec un jour de décalage, heureusement, parce que la veille, ils avaient ramené une pratique de la troisième mi-temps du rugby qui consiste à s'exploser des glaçons entre deux fronts. Donc, je suis arrivé, ils avaient tous des marques sur le front. Ils avaient fait un show dans le bar, on y retournait, tout le monde les reconnaissait le lendemain. Il y avait vraiment presque des rites, des rituels après de...
Oui, pour faire partie du groupe, quoi.
Ouais. Après, il y a aussi une démonstration, je pense, de puissance, notamment dans un sport comme le rugby, qui passe par ce que tu fais pendant le match.
Est-ce que tu es capable de faire après,
qui, pour moi, par contre, est un truc un peu dangereux. Moi, je sais qu'en tant que footeux, j'ai pas énormément participé au troisième mi-temps de footeux. J'étais un peu, ça ressemblait un peu à des soirées d'intégration, des bizutages.
Oui, c'est ça, il y a une ambiance particulière quand même, qui n'est pas toujours très saine.
Tendance à imaginer un peu ça. Je ne sais pas, toi, Maël, tu as peut-être plus pratiqué dans le...
Ça peut dépendre des clubs aussi et des ambiances, je pense. Moi, j'ai passé au Stade Quintinet, j'ai passé des très bonnes troisième mi-temps. On buvait des coups tout simplement sans s'éclater des gros trucs à la gueule.
Ça restait bon enfant.
C'était plutôt un moment festif où on reparlait du match et... Du salaud qui avait pas le même maillot que nous, et voilà, mais c'était assez
salaud.
Il y avait une assez bonne ambiance.
Ouais.
Bon, en tout cas, il y en a qui n'ont pas réussi à choisir entre ces deux addictions. Et puis, boire une bonne bière après un exploit sportif, ça fait toujours du bien. Est-ce que vous vous rappelez de Gordon Banks?
Oui.
Peu.
Non.
C'était le gardien de l'équipe d'Angleterre qui est rentré dans les annales le 7 juin 1970 à la 10e minute d'un Angleterre-Brésil du premier tour de la Coupe du Monde de football en réalisant face à
Pelé,
ce qui est considéré depuis comme l'arrêt du siècle. Sauf qu'à la veille du quart de finale face à l'Allemagne, Banks s'est intoxiqué après avoir bu une bière mexicaine. Du coup, il est forfait pour le match et l'Angleterre va perdre 3-2.
Jamais très long le chemin qui ramène à l'enfance. Maintenant tu bois tout ton soul, tourbillon et valse violence. Et tu t'envoies par le fond à enquémander ta pitance. Et lentement tu coules à parler à ton ombre, juré par le ciel que la vie est la plus belle de toutes les putains pour un peu qu'on allonge. Combien de temps cela fait polo que je ne t'ai revu, merde je n'en sais rien. Combien de temps que sous le manteau tu as vendu tes rêves avec un peu des miens. Non je n'ai pas les mots, tout ce qui me revient c'est les cris des préaux. On les voyait en nous, anglais, brésiliens, Mexico, Jairzinho. Une foule et des reporters en transe, Jairzinho, Jairzinho, qui sont trop pompeux. Maintenant tu bois tout ton plein, tu les regardes. Ta langue pend dans ton vin, tu souris dans ta barbe. Tu les imagines heureux, ces deux cons au fond de la salle. Et que je te tripote les cheveux, tu voudrais renverser la table. Papa fumera près du feu et maman fera du gâteau. Une tripotée de morve qui sera leur fierté bientôt. Tu aimerais leur dire que ça finira, tu aimerais leur dire mais faudrait que tu te lèves. Tu as beau les maudire, pisser dans les draps, mais déjà tu transpires dans les chais, les lèvres. Non je n'ai pas les mots. Ce dont je me souviens c'est Platini, Zico qui rentrait au vestiaire quand ta mère disait fin. Mexico, Jairzinho, une foule qui nous ressortait du vent. Jairzinho, Jairzinho, qui sont tous pour peler à les poils en robe. On parlait d'excellence, on rêvait d'excellence à les poils en robe. La parade de Gordon Banks.
C'était la Ruda Salska avec la parade de Gordon Banks. Vous écoutez le match 11 de Gaulle Volant consacré à l'alcool. Bah, on va pouvoir enchaîner, avant que l'alcool ne redescende trop pour certains, avec la chronique de Benjamin.
Bon bah moi je vais vous parler pour changer un de ma pratique, hein. Et donc du trail ou de la course à pied, et donc aussi vu que c'est le thème, d'alcool. Bon, j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait quand même pas mal de gens, bah, comment vous dire, c'est pas les derniers à lever le coude quoi.
Il me regarde l'autre, il est en train de lever le coude. En plus.
Bon, je vais pas juger, hein, on n'est pas là pour ça, car comme dirait Renaud...
Et que celui qui n'a jamais titubé... me jette la première pierre.
Ouais, vous l'avez, vous l'avez ou pas, hein, c'est de la poésie, on a dit. Hein.
Ouais,
ouais, fous la pêche, cette chanson, excellent. Hein. Les ravages de l'alcool, on reste dans le thème. Bref.
Ça va pas piquer demain, non? Ça va aller?
Ah si. Si, 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 si. On s'en fiche, c'est pas grave.
Alors ça, c'était après l'Urban Trail à Rennes il y a quelques jours. Et il n'y avait pas que les cannes qui allaient piquer le lendemain, il y avait aussi le crâne. Et oui, après la course, il y a un paquet de coureurs et de coureuses qui sont allés se jeter une petite mousse. On était au bistrot avec Jérôme et Mathieu et on faisait, bah, comme tout le monde, hein, un reportage en immersion, hein, les gars.
Oui.
Enfin, sauf que vous, bah, vous n'aviez pas couru. Hein. En même temps, Mathieu, toi, c'est tout à fait normal, t'étais pas inscrit. Hein.
Vous avez couru, là, les
24
km. Quand vous avez fait 24 km, ouais.
Oui.
Et maintenant, vous allez vous prendre une petite pinte.
Une bonne pinte, tout à fait, entre amis.
Ouais.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Ça va faire du bien.
Complètement, oui.
Ouais.
Oui, ça va faire du bien.
Et vous êtes à combien de pintes, là? C'est la première?
Ça va être la troisième, nous.
Ah, ça va être la troisième, là.
Bah oui.
Ok. Et Clément, tu as couru, là, aujourd'hui?
Tout à fait, les 24 km de l'Urban Trail.
Ok. Et là, tu es au bar, tu vas prendre une petite pinte.
Une ou deux.
Trois.
Autant 4 km.
Oula, oula, oula. Le gars fait 24 bornes. Quand même. Bon, ils ont tous la même bonne raison derrière cette consommation.
C'est pour la récup, on dit souvent la bière, ça fait du bien. Voilà.
C'est pour la récup.
C'est la récup?
Bah oui. Ah, c'est la récup du bon sportif du dimanche.
D'accord, ok.
C'est scientifique, hein.
C'est scientifique aussi, vous
voyez? Oui, oui.
Ok.
Bah oui, hein, la récup, hein. Bah, t'en parlais tout à l'heure, Mathieu. Bah, ouais, bah, elle a quand même bon dos, la récup, hein. Mais est-ce vraiment raisonnable, enfin?
C'est juste qu'il faut se faire plaisir, on est activé.
Bah non, je vais y aller tranquille, mais je vais bien fêter ça parce que ça mérite d'être fêté, des événements comme ça.
Un seul but, donc, profiter et se faire plaisir. Hein, c'est vrai qu'on était très bien, les gars. Hein, il faisait beau, on savourait cette petite mousse bien méritée. Ah bah non, vous n'aviez pas couru. En même temps, Mathieu, toi, t'avais pas prévu de faire ça. Hein.
Oh, ça va, c'est bon.
Bon, je vais regrouper ces personnes dans une première catégorie que j'appellerai les épicuriens. Moi, bon, c'est ma petite touche philosophique, hein, vu qu'elle en est pas. Est-ce que vous connaissez la théorie des ensembles en mathématiques?
Oui, j'en ai entendu parler.
Oui. Alors, bon, par exemple, hein, pour ceux qui connaissent pas, pour celles et ceux qui connaissent pas, bah, les nombres entiers 1, 2, 3, 4 constituent un ensemble qui est inclus dans un plus grand ensemble, celui des nombres décimaux, 2,3, 6,75, etc. Car tous les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Et ben moi, je vais appliquer cette théorie aux coureurs et aux coureuses. Donc, un premier ensemble, les épicuriens. Et il n'y a pas que, évidemment. Il y a aussi celles et ceux qui n'ont pas le temps et qui boivent avant la course. En général, on les retrouve aussi dans la première catégorie. Cette deuxième catégorie, qu'on appellera les soifards, est donc un sous-ensemble des épicuriens. Pour illustrer la mentalité de cette nouvelle catégorie, eh ben, par exemple, l'autre jour, j'ai fait l'Urban Trail de Brest en mode défi de la brute, comme ils l'appellent. Tu cours 15 km samedi en fin de journée et 33 km le dimanche matin. Et entre les deux, ben, la tradition, c'est de prendre une cuite.
Prendre une cuite? Mais qu'est-ce que cela veut bien dire?
Ah oui.
Bonjour la France, prendre une cuite est une expression française qui signifie se saouler, boire trop d'alcool. Attention à la gueule de bois.
Attention à la gueule de bois. Donc une cuite, oui. En tout cas, c'est ce que m'a dit le premier gars que j'ai croisé à la gare de Brest. Et cette catégorie a même une théorie, la théorie de l'avant-veille. Est-ce que vous connaissez cette théorie?
C'était pas Giroud qui parlait de ça aussi? Ah non, c'était à propos de sexe, Giroud.
Ah, écoutez.
La théorie de l'avant-veille, c'est une théorie qui consiste à dire que la veille au soir, un petit écart avant une course, comme, je sais pas moi, aller boire un petit verre au bar ou quoi que ce soit, ça va absolument pas influer sur tes performances du lendemain. Aucun souci, tu feras à peu près le même temps que si t'avais bien dormi la veille.
Ça va, tout le monde suit?
Il allait courir le lendemain. Ouais,
moi, je connais cette voix, ce n'est pas qu'un petit verre.
Vous remarquerez qu'on n'a toujours pas abordé l'avant-veille.
Non, mais sur la veille. Hein.
Mais je pense que vous voyez un peu le truc venir, non?
Alors par contre, l'avant-veille, là, c'est une grosse connerie. Pourquoi? Tu vas aller boire, tu vas aller faire la teuf avec tes potes. Tu vas te coucher à 5h du mat. Et le lendemain, tu vas culpabiliser toute la journée. Parce que tu vas te dire, oh, ouais, mais ça va être horrible demain, je vais courir, je suis trop dans le mal. Et donc le soir, tu vas très mal dormir parce que tu vas stresser. Et là, le lendemain, tu fais un temps de merde parce que t'es trop fatigué.
La théorie intéressante qui fait l'objet de tout un module en deuxième année de STAPS. Et puis, il y a une dernière catégorie hein, qu'on appellera, bon, moi je suis désolé, hein, mais j'ai trouvé que ça, hein, bah, les poivrots. Alors cette catégorie, elle est très particulière car elle participe à des courses tout aussi particulières comme le marathon du Médoc.
Alors j'ai fait le marathon du Médoc c'était en 2018.
Ok. T'as mis combien de temps pour le faire?
J'ai mis 5h45, mais on est resté 30 minutes posé au dernier château, donc qui était à la fin, quoi. Donc on a mis 5h15 en gros.
Vous avez déjà entendu parler de ce marathon et de son principe ?
Un peu.
Ouais,
mais
un peu. Bon, il y avait un petit indice quand même. Rester posé au dernier château. Mmh. Allez, une petite explication pour celles et ceux qui n'auraient pas encore deviné.
Alors, c'est un marathon...
42 km.
Voilà, tout à fait, ouais. Alors que tu dois... Que tu fais... c'est un marathon assez classique, sauf que au ravitaillement, en plus de la flotte et des petits gâteaux, il y a des stands de dégustation de vin. Parce qu'en gros, tu cours dans les vignes, du coup, dans la région du Médoc.
OK.
Alors, il y a beaucoup plus de ravitaux que sur une course classique.
C'est-à-dire ?
Alors, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais il doit y en avoir une vingtaine à peu près.
D'accord. Donc, ça fait un tous les
2 km. Ouais, à peu près. Alors, il y a des moments où il n'y en a peut-être pas pendant 4 km. Et moments où ils sont
plus en série. C'est dur.
Mais ouais, l'idée, c'est à peu près ça. Ouais. Tous les 2 km, t'as un petit ravito.
Donc, t'as une occasion de boire un verre de vin.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est des petits verres, hein. C'est pas des gros verres de pif non plus.
Et ça marche, les gens, ils boivent du pif
Alors, au tout début, tout le monde s'arrête. Donc là, c'est un peu compliqué d'avoir des verres. Et c'est un peu. Enfin, tout le monde vraiment s'arrête. À partir, je dirais, du 25-30e km.
Les gens tombent.
Les gens, ils courent et ils s'arrêtent plus, quoi.
D'accord.
Ils ont peur des crampes, je pense, ou des trucs comme ça.
Le 25e ou le 30e
km. Ouais, à partir de là. Et là, du coup, alors c'est assez drôle parce que les vignerons, du coup, ils sont assez contents que toi, tu t'arrêtes. Et du coup, souvent, ils boivent un petit coup avec toi. Et t'as même moyen d'aller visiter les caves avec eux, quoi. Il y en a qui font des petites visites de leur château et tout. Non, vraiment, c'est cool.
Donc oui, on boit pendant la course. Bon, résumons jusqu'à présent. On a un grand ensemble, les épicuriens, et dans cet ensemble, on retrouve un groupe plus resserré, les soifards. Où allons-nous placer les poivrons?
Mais alors, l'idée, c'est d'arriver le plus tôt possible, parce que c'est open bar à l'arrivée. Et là, c'est vraiment la fête. C'est très, très cool, quoi.
On boit pendant, et on boit après aussi.
Et avant aussi, alors j'aime. Parce que la veille, il passe la partie. Et là, la théorie de l'avant-veille se vérifie encore, parce que tout le monde a fini, on a bien fait la fête, quoi. Et personne ne l'a senti le lendemain matin, hein, vraiment aucun problème. Là, par contre, l'avant-veille, on était très sages.
Alors, je les mets où, les poivrons ? Je les mets où ?
Dans l'ensemble
des soifards. Oui, 20 sur 20 Et oui, c'est un sous-groupe des soifards. Bien joué.
On a
vous
quand même
fait
un
petit schéma pour résumer tout ça. Hein, vous voyez, donc les épicuriens qui boivent après, à l'intérieur, les soifards qui boivent avant et après, et à l'intérieur, les poivrons qui boivent tout le temps, hein, tout simplement.
On vous mettra le graphique sur le Twitter.
Oui, on va mettre ça. J'ai entendu aussi, quand même, pour finir, des rumeurs concernant des personnes évoluant dans une réalité différente de la mienne, une quatrième catégorie, donc un autre ensemble, un autre ensemble qui plane à côté des autres. Un ensemble que j'appellerai les imbéciles. Non, pardon, je rigole. On les appellera les esthètes. Des gens étranges voués corps et âme à leur sport, leur passion, et qui au grand jamais n'infligeraient à leur corps le supplice de l'alcool, fût-ce même de l'ambroisie, le nectar des dieux.
Nous avons du nectar et de l'ambroisie.
Nectar et de l'ambroisie. Oh non. Pas de ces cochonneries, moi je veux du sanglier. J'aime le sanglier, c'est bon.
Nectar et ambroisie, des cochonneries.
Alors merci quand même à tous mes interlocuteurs, hein, Georges, Clément, Thibault, Obélix et tous les autres. Et vous, chers auditeurs et auditrices, vous vous placez dans quel groupe ? Moi, évidemment, je suis épicurien.
Faut-il pas être un peu dingue pour passer ses dimanches dans la boue, se casser le nez, les côtes, sans gagner le moindre sou, rugby amateur, combat sur terrain vert, découper, s'ouvrir le crâne pour finir par boire un verre. Ne faut-il pas être un peu fou pour se retrouver tout sauvé, ces rôdeurs bestiales, mélange de menthol et de vêtements sales, un arvano en cage, appelez-moi le vétérinaire, car dans les douches ils règlent leurs soucis urinaires. Rugby amateur, on se trappe les oreilles mâchées, allure de match, on fâché, vaseline sur les arcades, fixe sous les naseaux. Shoot d'adrénaline, pas de visite dans mon zoo. Ça montre les crampons à l'homme en jaune, roi du sifflet. J'parle de ce qui kifflait. Pression d'avant-match, les mains du kiné qui masse. Les boules à l'estomac, le jeu dans les espaces.
Oui, à l'heure de partager l'amitié.
Entends-tu toi?
Oui, chef d'œuvre de mots, le porte.
intubation pour ce match en terrain connu. Rageant l'incubation, un arbitrage digne de l'ONU. Y'a pas de solo ni de sauna, de lingot ni plus pour Sony. 30 des glingos qui s'envoient comme des connards sur une pelouse pourrie. Vu de l'extérieur, ça peut faire peur à tes enfants, mais c'est une belle leçon de partage, de sacrifice jusqu'au sang. Un sport qui accepte les gros tas, les gringalés, les rapides et les tracteurs. Ceux qui veulent gambader ou exorciser leur peur. Une pluie amateur, bruit de métal sur le carrelage. Godasse pleine de gadou, la trouille au cul, quel que soit l'âge. Ils vont sortir dans 2 minutes dans une arène avec 10 pèlerins. Tranchés d'une heure 20 dans les tribunes, tu te les pèles bien. Rugby amateur, pour le plaisir et l'aventure humaine. Repasse-toi le discours de ton capitaine.
Rugby, pas l'heure de partager l'amitié.
En janvier c'était mon tour, un iscu sec dans mon grand verre. Il faut le vivre et le voir, si je raconte personne n'y croit. Les mecs enchaînent les anecdotes de fous sur Thierry Lacroix. Tire un trait sur tes soirées dans ton appart avec tes potes. Ici ça papote, deux meufs qui tournaient jamais sans capote. Pour les stages en province, pas si loin j'en provins. Le groupe a ramené pour son coach dans sa piole d'hôtel un bovin. Festif et bon enfant, loin des clichés que les cons en font. Pour se rappeler qu'on est une grande famille, on lance des chansons. Preuve que ça plaît aux nanas, nombreux sont celles à se déplacer. Tout le monde y trouve son compte, joueur de chant, remplaçant. Mais passons, nos guerriers ne prétendent pas être des mots passants. Des poissons dans une mare de sang, charrie de mots pinçants. Parole d'un passionné du ballon rond, venez dans ces soirées, y'a pas meilleure ambiance, on vous l'assure qu'avec tous ces tarés.
Oui, à l'heure de partager l'amitié.
Entorse du doigt.
Oui, j'ai de mots le porter.
Fracture du tibia.
Et on vient d'écouter Rugby Amateur du groupe Le 4P. Et vous aurez peut-être reconnu la voix de l'insupportable
Zaz.
Zaz, tout à fait. Juste avant ça, Benjamin nous parlait de course à pied et de la propension qu'ont certains coureurs à bien picoler après, pendant ou avant une course. Tu te places d'ailleurs dans quelle catégorie, toi?
À moi, les épicuriens, moi, ceux qui boivent après.
Ben merci pour cette chronique rafraîchissante. Et puis pour nos auditeurs adeptes du bon goût, vous pouvez aller voir sur notre compte Twitter volant.gaul la photo de la tenue de Benjamin et notamment son short de bain orange délavé.
Et mon cycliste.
Et ton cycliste.
Gaul Volant, l'émission de sport et société en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
Bien, donc c'est le moment de ma chronique. Alors moi, quand le thème a été choisi, sport et alcool, bah tout de suite j'ai pensé faire une chronique sur sur moi, hein, directement. Oui, parce que comme on l'a un peu évoqué jusque là, j'entretiens un drôle de rapport aux deux choses. Parce que j'en ai quitté un des soirées, annonçant à un copain, essayant de me retenir, j'y vais. J'ai tennis demain matin. Et puis en fait, le 16 avril dernier, j'ai assisté à quel événement sportif à la télé le 16 avril dernier? L'Amstel Gold Race, évidemment. Hein, je sais que tout le monde l'a regardé autour de cette table. Mm-hmm. Donc, chez les femmes, c'est sans surprise Demi Vollering qui a gagné, qui défonce vraiment tout cette année. Et chez les hommes, c'est Pogacar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le podium de la course masculine. Hein, non, vous avez regardé la
course.
Non,
je me suis arrêté à la course.
Ouais, voilà, je
me suis resté à l'Amstel.
Que s'est-il passé sur le podium? Comme nous étions en Belgique, les trois premiers coureurs de la course se sont vus offrir une bière sur le podium. Et Pogacar, lui, il se l'est enfilé cul sec.
Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue.
Et pourtant, non. Alors, ça a fait marrer les gens assistant au podium, mais ce qui est assez cocasse, ce sont les réactions de Ben Healy et Tom Pidcock, respectivement deuxième et troisième de l'épreuve. On voit Ben Healy qui sourit, gêné en voyant ce que fait Pogacar, qui semble se sentir un peu obligé de continuer à boire sa bière, parce que c'est pas raisonnable pour un cycliste. Tom Pidcock, lui, il boit une petite gorgée, puis il pose très rapidement sa bière là où il peut pour s'en débarrasser. Bah oui, parce que performance oblige, ils sont obligés de faire attention à tout ce qu'ils consomment. Alors, moi, ça me rappelait un peu Nadal, que j'avais vu faire semblant de boire du champagne à l'issue d'un tournoi qu'il avait gagné. Et donc, l'image de Pogacar a fait sourire, car il est rare surtout dans le cyclisme, de voir des sportifs consommer de l'alcool. Surtout, il est loin le temps où l'on pouvait trouver, parmi les meilleurs de leur discipline, des compétiteurs, des compétitrices ayant un penchant pour la boisson. Alors, bon, je dis pas que ça me manque, mais si, ça me manque. Alors, bon, je suis peut-être un petit peu bizarre.
Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison.
Bah oui, parce que en sport comme en art, les destins particuliers, hors normes, me fascinent. J'aime les tempéraments excessifs, les destins tragiques. Avez-vous entendu parler de George Best ?
Oui,
oui. Hein, Maël, toi tu connais ?
Oui, oui, oui.
Footballeur nord-irlandais qui jouait à Manchester dans les années 70, donc George Best était bon au foot, beau gosse.
Excellent, excellent.
On l'appelait le cinquième Beatles, et il avait un certain sens de la punchline pour parler de ses addictions. Alors je vous en resserre quelques-unes. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. On marque une manière de causer des femmes assez particulière. Ouais, ouais. Une autre, pour évoquer son passage dans un club de Los Angeles. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Il y a quand même un sens de la...
Oui,
de...
oui.
La formule.
Avant, dans le football masculin, on pouvait trouver plusieurs alcooliques au sein d'une même équipe nationale. L'Angleterre des années 90, c'est Tony Adams, Paul Gascoigne et Paul Merson. Tous d'excellents joueurs. Tous alcooliques. Dans le tennis, Marat Safin avait une belle réputation de fêtard. Dans les années 70, il y avait Vitas Gerulaitis, vainqueur de l'US Open 1977, qui avait aussi une réputation de très bon jailleur. Et lui aussi avait un certain sens de la punchline. En 1979, il bat Connors, qui l'avait battu lors de leurs 16 précédents affrontements, et déclare « Et que ce soit une leçon pour vous tous, personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite. » Alors ok, aujourd'hui, il y a Benoît Paire qui a repris un peu le flambeau, mais avec un panache un poil différent.
La chatte,
grande classe.
Ah, il est devenu viral. Ce... Alors en fait, j'ai l'impression que le sport a globalement demandé aux sportifs de devenir parfaits. Regardez aussi le rapport au tabac. Dans les années 70, Cruyff, un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, s'enfilait deux clopes à la mi-temps de chaque match. On dit même que dans certains clubs, dans les années 80, il y avait 80% des joueurs qui fumaient. En équipe de France, un peu plus tard, il y avait le gardien Fabien Barthez, et même Zinedine Zidane fumait.
Ah ouais,
il y a une photo de lui qui fume une clope.
Oh, pas comme ça, Zinedine.
Eh oui, vous vous rendez compte ?
Pas Zinedine,
non,
pas toi.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Vous étiez pas loin de me piquer. Vous alliez pas me piquer mon Gilardie quand même. Alors aujourd'hui, les joueurs qui fument, ils se cachent. Certains joueurs se font prendre en photo, par la presse à scandale, cigarette à la main. Notamment Marco Verratti, joueur du PSG, qui se fait régulièrement égratigner pour son hygiène de vie, son tabagisme, lorsqu'il est moins performant. Les sportifs sont devenus des êtres optimisés de tous côtés. Ils ne doivent pas boire d'alcool, pas fumer, pas trop manger. Voilà, tout est calculé pour maximiser, optimiser leur performance. Aujourd'hui, les cyclistes, ils ont des oreillettes pour être en lien avec leur directeur sportif, mais aussi ils ont un outil leur permettant de calculer combien de watts ils développent pour ainsi mieux doser des efforts.
Nom de Dieu.
Eh oui, alors moi aujourd'hui, ça me fait du bien d'entendre parler de Liudra et Clément qui ouvraient une bouteille de vin tous les soirs lors de Wimbledon 2007, année où ils gagnent le tournoi en double. Ça fait du bien de voir Pogacar s'enfiler une bière cul sec. Mais c'est aussi triste quand trois jours avant, il gagne le Tour des Flandres. On lui tend une barquette de frites parce que c'était la Belgique. Et on voit qu'il y avait un mec qui était prêt juste à recevoir la barquette de frites. Il récupère la barquette, il fait un sourire à la caméra et discrètement, il évacue la barquette de frites vers un membre de son staff parce qu'il ne pouvait pas manger de frites, ce n'était pas possible.
Bah c'est bon les frites.
Tu lui diras la prochaine fois que tu le croiseras. Alors bien sûr, les destins de George Best mourant de tous ses excès à moins de 60 ans, c'est pas génial. Bien sûr que la déchéance dans laquelle est arrivé Paul Gascoigne n'est souhaitable à personne. Cruyff ne serait pas mort d'un cancer des poumons s'il n'avait pas tant fumé. Mais le rapport des sportifs à l'alcool, le tabac, la bouffe, qui peut nuire à leur performance, en dit beaucoup sur la place qu'on essaye de donner au sport. On essaye maintenant de faire des sportifs, des demi-dieux, incorruptibles et sains. Bon, sur la corruption, il y a quand même 2-3 trucs. Les carrières démarrent plus tôt, les sorties de route n'existent plus. Les comportements différents se raréfient, tout est scruté dans les moindres détails pour optimiser les performances, la communication. J'ai encore comme l'impression que le sport est, comme qui dirait, le reflet de ce qui se passe dans une part de notre société. Donc ils tendent vers la perfection des corps, des performances, des attitudes, mais ils sont devenus terriblement tristes. Ils ne sont plus les rockstars qu'ils ont pu être. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le sport ne s'est pas un peu trop passager? Est-ce que le sport de haut niveau, hein, parce que c'est bien de ça dont je parle.
Oui, c'est ce que j'allais te dire aussi. Ça dépend de quelle pratique sportive on parle. Quoi.
Moi, je parle un peu de justement ces destins qu'il pouvait y avoir un petit peu avant, un peu excessif, hein, c'est sûr. Mais
qui, du coup, gênaient pas leur pratique sportive, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. C'est que tous ces sportifs restaient performants et en picolant comme ils voulaient.
Ouais, parce que c'était aussi une époque où... Donc, voilà, enfin, par exemple, tu vois les footeux, les tennismen, comme ils étaient gaulés dans les années 80, ce n'est pas les mêmes athlètes que maintenant. Maintenant, ils ont des corps qui ont changé.
C'est surtout une question d'image, en fait. C'est ce qui renvoie maintenant au public, à la société, quoi.
J'ai l'impression que c'est plus ça, en fait, peut-être. Alors oui, après, effectivement, il y a le culte de la performance et tout ça. Et comme tu l'as très bien dit, il y a un côté où, c'est plus des... ça devient des machines, quoi. Donc, où il faut vraiment optimiser tous les paramètres, tac, 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 tac. Et oui, quand tu mets 0,5 g d'alcool là-dedans, ça peut très bien faire foirer la machine. Mais j'ai plus l'impression quand même que c'est une question d'image, ouais. Quelqu'un qui... il va fumer sa clope. Il fume sa clope. Il sait très bien, en plus, que c'est pas bon pour lui. C'est son boulot d'être performant. Non. Pourquoi est-ce qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied, là? Qu'est-ce qu'il fait? Donc oui, je pense que c'est plus une question d'image. Je suis assez d'accord.
Et d'exemplarité. Ils ont ce devoir d'exemplarité. Mais pourtant, ça les déshumanise complètement.
Oui.
C'est beaucoup plus facile de s'identifier à un Pogacar qui boit sa bière après la course qu'à
Messi, qui est l'idole de plein des gamins et qui n'a aucune aspérité. Il n'y a rien.
Complètement lisse. Ça ressemble à une machine, justement, comme tu disais. Et c'est vrai que c'est dur de s'emballer pour ces personnes-là.
Oui, parce que ce qu'on aime aussi chez les gens en général, au-delà des sportifs et des sportifs, c'est aussi leur faiblesse, quoi. C'est pas tant. Oui, tu parlais des gens qui sont très lisses. À un moment donné, c'est chiant, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, quoi.
Ça les rend humains.
Les failles et tout ça, quoi.
Puis il y a un côté hypocrite un peu aussi. Quand j'en parlais dans mon édito, c'est qu'il y a quand même pas mal d'équipes sportives qui sont sponsorisées par des boissons alcooliques.
Oui.
Ça c'est totalement hypocrite.
Mais à côté de ça, dans le rugby, par exemple, quand on voit qu'il y a de plus en plus de caméras dans les vestiaires après les matchs, et quasiment à chaque fois, on les voit quand même avec une binouze à la main. Et donc, dans le rugby, ça existe encore, quoi.
Ouais, après, est-ce que c'est le seul moment où il y a cette parenthèse qui est possible de boire une bière dans l'après-match? Est-ce que le reste du temps, ils en sont totalement... Enfin...
En tout cas, elle existe, cette bière après-match, elle est là.
Elle est montée.
On n'imagine pas les joueurs du PSG boire une bière à la fin du match.
Alors
qu'au rugby, 9 fois sur 10, quand il y a une caméra dans les vestiaires, on les voit en train de trinquer et de boire une bonne petite binouze.
Après, moi, là, je suis revenu aussi sur les punchlines, parce que, maintenant, il y a, notamment dans le football, il y a Ibrahimovic qui fait des punchlines. Moi, je ne suis pas forcément très fan, parce qu'il y a un truc, juste, il a choisi un rôle d'orgueilleux, de prétentieux de service. Je trouve que maintenant, par exemple, le tennis et le foot, je parle souvent de ça, mais c'est les deux sports que je fais le plus, désolé. Les gamins sont récupérés très vite et tout de suite, il y a tous ces petits leviers d'optimisation qui sont pris avec des experts qui les suivent et qui les empêchent aussi d'être autre chose que des sportifs.
Il y a un moule dans lequel on essaye de les y mettre dès tout petit, en fait. C'est pas des individus qui sont sportifs. Dès tout petit, on les met dans le moule pour devenir des sportifs efficaces.
Voilà, qu'il n'est plus que la culture du sport de haut niveau, alors qu'avant, peut-être que ça mettait plus de temps, qu'ils avaient le temps aussi d'entretenir des liens avec d'autres pans de la société.
Les amis.
Oui. Après, je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est à la limite, on peut aussi dire que c'est pas plus mal qu'ils boivent pas et qu'ils fument pas, quoi.
Non, bien sûr. Là, l'alcool, c'est plus un prétexte pour se demander aussi si tous ces, tu l'as très bien formulé, tous ces petits leviers sur lesquels on peut agir. Il y a un expert sur chaque chose qui va faire leur stats, l'énergie dépensée.
Ouais.
Je pense qu'il y a 30 ans, il y avait peut-être une personne en charge de l'alimentation dans une équipe. Maintenant, il doit y avoir
des IA.
Oui, il y a des calculs, des statistiques.
Quand on voit la Jumbo-Visma, justement, là, dans le cyclisme, qui ils ont des diététiciens, c'est une des meilleures équipes de diététiciens quand on enfin, c'est Laporte qui vient ouais. Comment il s'est transformé physiquement depuis qu'il est dans cette équipe et ils savent exactement à quelle heure il faut manger et quelle quantité de pâtes il faut manger à tel moment de la course enfin, ou telle heure tant de temps avant la course. C'est justement ça, ça devient des machines qui sont réglées au millimètre.
Ouais, ça fait penser
Oui, vas-y, Benjamin.
Ça fait penser à la Formule 1, quoi, presque.
Ah oui, complètement, complètement. Ouais, ouais. Complètement, c'est oui. Des bolides et à tel moment, il faut ça pour optimiser ses performances.
Bien, eh ben, merci pour ces échanges constructifs, messieurs. Le temps avance, notre taux d'alcoolémie diminue.
De bière.
Bon alors, pour les mêmes raisons, les mêmes raisons que Jérôme, Julien ne s'est pas levé ce matin et m'a donc chargé de vous transmettre ces conneries pour cette troisième mi-temps, conneries dont je me désolidarise totalement. Allez, on t'écoute Julien.
Je vous ai concocté un petit quiz de troisième mi-temps. Allez, on attaque. Après un match de foot, il y a contrôle antidopage. Il faut donc aux joueurs uriner pour les tests. Le problème est qu'il peut être difficile d'uriner comme ça à la demande, surtout après avoir transpiré 90 minutes. Pour aider, il est donné aux joueurs de la bière à boire, afin de les aider à se soulager. Notre joueur met plus d'une heure et demie avant de réussir sa petite commission. Résultat, il finit tout bourré. Vrai ou faux ?
Vrai ou faux ?
Vrai ?
Faux, moi j'aurais dit qu'il y avait d'autres boissons qui...
Il n'a pas bu que de la bière ?
Non, non, que c'était pas alcoolisé.
Eh ben si, c'était vrai.
Ah ouais ?
C'était
vrai.
Franck Leboeuf qui l'a raconté en 2017.
Est-ce qu'on doit faire confiance à Franck Leboeuf ?
Des bières sans alcool maintenant.
Oui,
ouais. Eux, c'était des bières alcoolisées. Moi, j'ai fini bourré. C'est-à-dire que j'arrivais pas, ça a duré une heure et demie, mais déchiré par terre. C'est-à-dire tout ça pour pisser. Et alors après, par contre, quand t'as pissé, là, tu vas toutes les 5 minutes. Et c'est un enfer. Mais nous, c'était alcoolisé. Là.
Ça me rappelle quelqu'un tiens, qui va pisser un peu toutes les demi-bières.
Julien, non, peut-être qu'il n'est pas là, justement.
Moi, je sais pas. Moi, je fais plus confiance à Leboeuf dans ses chroniques que pour tenir la défense de l'équipe de France.
Ouais. Bon, allez, on continue.
Il existe un sport et un seul où la présence d'alcool est tolérée. Lequel ?
Alors, lequel ?
Bah, le field football, là.
Non, non, un vrai sport, quand même.
Ah. Un sport dans lequel l'alcool serait autorisé ?
Toléré.
Toléré ?
Non.
Non, je sais
la Formule 1
La bonne idée.
Non, bah, il s'agit des fléchettes.
Ah, ouais.
C'est précisé d'ailleurs dans le règlement de la Professional Darts Corporation.
Et c'est pas obligatoire.
Non, c'est pas obligatoire.
Les palais, que dalle ? Le palais, la Fédération Française de Palais.
Est-ce que c'est un vrai sport ?
Ah oui,
je vais mettre tous les bretons.
Ah, oui.
Mais attention, il y a toutefois interdiction de boire pendant les passages retransmis à la télévision. Franck Guillermont, qui est aussi appelé Loulou dans le milieu des fléchettes, plusieurs fois champion de France et d'Europe, disait ceci. Si on commence à s'alcooliser, on s'enlève la pression. Un ou deux verres, c'est le minimum. Mais sur une compétition de plusieurs heures, je peux boire entre 10 et 15 bières.
Oh. Ah oui, pour garder aussi, c'est comme ça. Drunk, 0,5 degré.
Départ enduro. Les concurrents sont en ligne pour le départ, en haut de la côte, qui les lance sur l'anneau de l'épreuve. Notre champion est à l'extrême droite des concurrents. Top départ. Il enfourche son bolide, descend, réussit à semer tous ses concurrents à l'aide d'un magnifique virage couché à droite. Tous ses concurrents sont partis à gauche de l'anneau. Nous voilà avec notre champion champignon parti à contresens. Merci l'alcool. Le drapeau rouge est vite agité, la course interrompue, pas de blessé. Vrai ou faux ?
Alors, du coup, il avait bu le... J'ai pas entendu.
Ouais, il avait bu.
Ouais.
Bon, j'ai bien envie de dire vrai.
Moi, du coup, je vais dire faux.
Voilà.
Vrai.
L'esprit de contradiction. Non, c'est faux. Ah, Julien nous fait savoir qu'il n'a pas vu de traces sur le net de ça. Quoi.
Ouais, il ne l'a pas vécu, lui.
Qu'en pense Franck Leboeuf ?
Une grosse journée s'annonce pour notre champion. Le matin, finale simple et dans la foulée, demi-finale double. Défaite de la finale ce matin. Ah ! Accessoirement, ce fut une nuit courte pour notre champion. Difficile. Sa femme, à l'autre bout du monde, était en train d'accoucher. Après sa défaite, on lui propose un petit verre pour fêter la naissance de sa fille, puis un autre, puis... Vous connaissez quoi ? et il remportera la demi-finale double l'après-midi avec son alcoolique, son acolyte. Vrai ou faux ?
Faux. Parce que je pense que la demi-finale double peut pas avoir lieu après la finale du simple.
J'ai pensé à ça aussi. Oh.
Vous pensez que Julien est assez malin pour mettre des pièges comme ça dans un...
Ouais. Eh ben là, pas volontairement.
C'est totalement vrai.
Ah ouais ?
C'était Yannick Noah lors du tournoi de Monte Carlo en 1986.
Ah ouais ? Grande année, 1986.
Qui a dit « Je suis complètement passé à côté des années 70, j'ai été bourré de 1972 à 1977. Cela m'arrivait de boire 20 pintes de bière durant la journée, puis une bouteille de vodka entière avant de me coucher. »
Bah, George Best, j'aurais dit, mais...
Un sportif ?
Ah oui, oui. On est dans sport et alcool, Maël.
Ah oui.
Je suis passé, ça me dit quelque
années
chose.
Années 70, hein.
Ouais.
Bon, c'est un Anglais, déjà, je peux vous dire.
Ouais, c'est pas étonnant.
Un Anglais, tu as son sport de prédilection ?
En foot.
En football.
Est-ce que c'est pas...
Gascogne.
Ouais, Gascogne, ouais.
Non, c'est des années 90, là t'as dit 70.
Gascogne, ouais, d'accord.
Bah, Gordon Banks ?
Eh ben non, c'est Jimmy Greaves, qui reste aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Angleterre. Avec 357 buts. Et d'ailleurs, toute l'équipe de Gaulle Volant ne peut que lui tirer son chapeau pour tout ça.
100 mètres papillon, finale de Yale. Elle s'installe sur son plongeoir, les mains aux pieds, petite bascule avec le corps pour se donner de l'élan. 3, 2, 1, tout ! La voilà qui tombe sur le côté et se relève hilar, alors que toutes les autres nageuses ont déjà fait la moitié du bassin. Vrai ou faux ?
Oh, faux, c'est l'esprit malade.
Vrai, alors,
ouais. C'est faux.
C'est l'esprit tordu de Julien.
Bah ouais.
Bah ouais, c'est faux. Et puis j'imagine si ça t'arrive, en fait, tu te relèves pas du tout. Il a, ça doit faire mal.
Il y a le plot à côté.
Ouais, c'est vrai.
À la prochaine.
À la prochaine, Julien. Et merci pour toutes ces petites perles que tu nous as dénichées. Faudrait qu'on se fasse ça un jour, les gars. Commenter tout un match de l'en avant, complètement torché, comme ils viennent de faire.
Ah oui.
Moi, je suis chaud. Chaud.
Bien, ben c'était le match 11 de Gaulle Volant. Comme tous les autres matchs, vous pouvez le retrouver sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux de Gaulle Volant. Merci à vous tous. Je pense qu'on ne tient pas notre match référence, mais peut-être le moins sobre. Merci aussi à Maëlys pour la technique et pour avoir supporté les quatre poivrons que nous sommes pendant une heure. Et rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais bon. Moi, je m'en fous, je suis tout le temps malade. Salut.
Salut.
Salut. Salut, bisous.
À l'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi, je vous le dis.